vous d'Haïti et des Amériques. Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Ottawa. Réélu sans panache, sa légitimité entamée, Justin Trudeau reste Premier ministre du Canada. Mais à quel prix? On en parle avec notre invité du jour. L'indignation en Haïti face aux expulsions de migrants par les États-Unis. Godson Pierre d'Alter Press nous attend à Port-au-Prince. Et puis Tiziana Maron dans le journal de la Première, la Martinique, où les violences par armes à feu ont bondi.
Oui, et c'est une hausse spectaculaire malgré le couvre-feu et les mesures de restriction. Les détails dès le début du journal.
Dans une quinzaine de minutes, Tiziana, bienvenue à tous.
Merci mes amis. Thank you my friends. Merci tout le monde.
Les remerciements de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien sortant qui garde son costume de chef de gouvernement à l'issue des législatives anticipées d'hier.
C'est entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection? Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous. Vous avez donné aux parlementaires un mandat clair pour qu'on en finisse avec cette pandémie une bonne fois pour toutes et bâtir un meilleur avenir.
Un mandat clair pour continuer à gouverner. Est-ce bien sûr? Bonjour Louis Massicotte.
Bonjour Michael.
En ligne avec nous de Québec, ancien professeur du département de sciences politiques à l'université Laval. Avant de vous entendre, on va jeter un œil à ce que dit la presse canadienne aujourd'hui de ces élections qui permettent au Parti libéral du Premier ministre d'obtenir, selon des résultats encore partiels, 158 sièges sous le seuil fatidique des 170 pour constituer une majorité. Christophe Pagé, vous avez lu les journaux, cette victoire, elle fait la une bien sûr.
Oui, mais c'est une victoire sur laquelle la presse est pour le moins mitigée. Il a raté son pari, affirme Le Devoir, avec certes un troisième mandat, mais sans la majorité espérée. Pourquoi? Peut-être un début de réponse du côté de la presse. Les libéraux de Justin Trudeau ne sont sans doute pas les premiers qui aient tenté de profiter d'une avance dans les sondages pour gagner plus de pouvoir. Mais dans le contexte d'une nouvelle tradition d'élection à date fixe, tous les 4 ans, dans le contexte d'une pandémie qui s'étire, il ne devrait pas être acceptable qu'un gouvernement dissolve le Parlement à des fins purement partisanes.
Bref, Justin Trudeau est toujours Premier ministre, mais plus le même qu'après les campagnes de 2015 et 2019 selon The Star.
Et pour le journal anglophone, un gouvernement minoritaire, ça peut être vu comme un simple coup de déveine. 2 gouvernements minoritaires sur 3 tentatives, cela peut être un signe fort que les Canadiens veulent que le pouvoir de ce Premier ministre soit sous surveillance. Et déjà en coulisses, des stratèges libéraux commencent à évoquer l'après Justin Trudeau, croit savoir la presse, oublier son sourire charismatique, son ton solennel et ses invitations à une conversation renouvelée avec les Canadiens. C'est possiblement le début d'une période de grande turbulence pour lui, prédit de son côté Le Devoir.
Et en tout cas, pour les éditorialistes, Christophe, Justin Trudeau n'est pas le seul à devoir faire son examen de conscience.
Oui, le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole aussi, même si pour le National Post, il n'a pas failli dans les derniers jours avant le vote. En fait, c'est la campagne autour de lui qui a semblé perdre de son élan. Le Devoir est plus direct. Pour plaire davantage aux électeurs du Québec et de l'Ontario, il a, détaille la presse, imposé un virage centriste à son parti sur des enjeux tels que la lutte contre les changements climatiques, l'avortement et le retour à l'équilibre budgétaire. C'est un échec et pour le journal, Erin O'Toole risque d'essuyer des critiques d'une frange de sa base, notamment dans l'Ouest. Enfin, The Star estime que cette élection amène aux portes du Canada un monde politique extrêmement polarisé, familier des États-Unis depuis une dizaine d'années. Tout le monde vote en se basant sur la peur et la détestation et personne n'obtient ce qu'il veut vraiment.
Merci Christophe. Louis Massicotte, politologue, vous êtes avec nous. Tout ça pour ça, pas de majorité, un Parlement qui ne change finalement quasi pas. Elles ont servi à quoi, ces élections?
Eh bien, elles ont servi simplement à faire des perdants et elles ont surtout marqué un échec pour M. Trudeau puisqu'il a déclenché cette élection dans un seul but et il n'a pas atteint ce but. Je dirais cependant qu'il est peut-être un peu moins perdant que les autres comme ceci. C'est lui qui demeure Premier ministre. Il peut compter sur l'appui des néo-démocrates. Il y a beaucoup d'atomes crochus entre les deux formations et ces deux formations-là détiennent, comme dans le Parlement précédent, une bonne majorité des sièges. Mais son aura est certainement affaiblie, c'est évident.
Et ça, comment on l'interprète? C'est une usure du pouvoir? C'est le signe que c'est un Justin Trudeau qui finalement est politiquement quasi fini?
Ben, quasi fini, je serais prudent, mais la magie n'a qu'un temps. Il a commencé en Lyon sa carrière. On oublie trop souvent qu'il était devenu impopulaire avant son élection en 2015. Il a eu un coup de chance, des événements que je n'évoquerai pas, mais il a été élu. Et là, la magie a joué à plein pendant environ 2 ans et demi. Ça s'éternit à compter de 2017 et ça aboutit à la réduction de son parti à un statut minoritaire en 2019. Alors là, il a rêvé de faire ce que son père avait réussi, retomber minoritaire et retrouver sa majorité. Il a fait un coup de dé, il l'a perdu et les sondages indiquent qu'en tant que chef, il n'est pas vraiment beaucoup plus populaire que ses rivaux et les candidats libéraux vous avouent qu'en privé, que les porte-à-porte qu'ils ont fait, M. Trudeau ne ressortait pas très très bien dans les commentaires des électeurs rencontrés.
Mais comment l'interpréter comme la presse, on l'évoquait comme une mise sous surveillance finalement ou pas?
Il était déjà sous surveillance. Mais il faut nuancer, comme dire, ça fonctionnait très bien. C'était un parlement beaucoup moins acrimonieux que les autres parlements minoritaires que j'ai connus dans ma carrière. Il réussissait à obtenir ce qu'il voulait. C'est simplement qu'il voulait avoir tout le pouvoir, ce qui est le rêve d'à peu près tous les politiciens canadiens. Avoir une majorité, c'est la médaille d'or en politique canadienne, et ça, il n'a pas réussi à l'obtenir. Donc, il va demeurer sous surveillance.
Au point peut-être d'être contesté au sein de son parti libéral, c'est une possibilité?
C'est tout à fait possible. Cependant, pour le moment, je ne lui vois pas de rival. Ça prend toujours un premier ministre en attente, si je veux dire, quelqu'un qui est en réserve de la République. Et pour le moment, je ne vois pas de politicien dans la famille libérale qui puisse le supplanter. Mais certainement que on peut s'attendre à, si l'occasion se présente, les couteaux pourraient voler bas.
Louis Massicotte, après ces élections, évidemment, le jeu des alliances, puisqu'il est minoritaire, Justin Trudeau, vous avez commencé à l'aborder. On peut peut-être rentrer un petit peu plus en détail avec qui il va gouverner.
Essentiellement avec les néo-démocrates, je crois. Du côté du Bloc québécois, écoutez, il avait lancé une offensive de charme dans le camp nationaliste et... ça n'a pas donné du tout les résultats escomptés, alors qu'avec le NPD, ils partagent beaucoup de points communs. Ils ont une vision généreuse des pouvoirs fédéraux, trop généreuse aux yeux de plusieurs au Québec. Et ils vont probablement continuer dans cette voie-là. Ils ont, à moins que... Je pense que ce qui guette M. Trudeau, c'est un scandale. Alors là, les néo-démocrates ont l'habitude de soutenir un gouvernement minoritaire libéral, à moins que celui-ci, comme celui de Paul Martin durant les années 2000, soit embourbé dans un scandale, auquel cas, chacun retire ses billes. On ne soutient pas un gouvernement qui a des problèmes sérieux d'éthique et qui se débat dans un scandale.
Mais qui pourrait donc déstabiliser un pouvoir, un gouvernement qui, si je vous suis, a priori devrait être stable.
Devrait être stable. Moi, je vois d'abord les atomes crochus qui existent entre les deux partenaires, c'est un fait. La raclée que M. Trudeau vient de subir dans ses ambitions majoritaires, il en a tiré la leçon qui s'impose. On vous embêtera pas avec des élections dans un proche avenir, si bien que ce parlement minoritaire-là a peut-être une espérance de vie plus longue que celle de ses prédécesseurs, qu'on fixe habituellement entre 18 et 20 mois.
Un tout petit mot pour finir, Louis Massicotte, de la défaite des conservateurs de O'Toole. Vous avez dit il y a des perdants de tous les côtés. Lui, il paye ses revirements, comme on le disait tout à l'heure?
Bien, écoutez, il a fait une bonne campagne et il faut mentionner qu'à un certain moment de la campagne, au milieu, il commençait à mener, non seulement dans les intentions de vote, mais aussi dans la répartition probable des sièges. Et puis, il s'est embourbé dans un certain nombre de choses, mais je crois que le problème de fond auquel il fait face, c'est que M. O'Toole a essayé de recentrer son parti, de faire oublier les années Harper, alors que quand vous descendez dans la base conservatrice, vous apercevez que les années Harper, c'est vraiment le point de repère. C'était comme ça qu'on aimait les choses. Alors, Alors, il y a, et surtout, un recentrage, c'est bon quand ça donne des résultats. Ça ne les a pas donnés. Et je crois que le leadership de M. O'Toole est plus fragile encore que celui de M. Trudeau, parce qu'il y a des gens qui vont lui demander des comptes à l'intérieur de son parti. Et le côté factionnaliste chez les conservateurs, n'oubliez pas que c'est un parti qui est une fusion de deux courants, le courant conservateur radical du Reform Party et le courant qu'on disait progressiste conservateur. Monsieur O'Toole a essayé de revenir aux années du parti progressiste conservateur. Il a même fait venir Monsieur Mulroney, l'incarnation de cette époque, l'ancien premier ministre. Il l'a fait venir dans une assemblée publique. Et ça n'a pas marché.
Merci beaucoup, Louis Massicotte, professeur émérite de l'Université Laval à Québec. Merci pour votre éclairage.
RFI, la radio du monde.
Il est 8h20 à Del Rio, au Texas, où les autorités américaines continuent de vider le camp de migrants qui s'était installé sous un pont de cette ville frontalière avec le Mexique, notamment des Haïtiens. Des évacuations, des expulsions, avec des images aussi très polémiques, Thomas Arms.
Des Haïtiens apeurés qui courent dans l'eau à proximité de chevaux montés par des gardes frontières. Avec son lasso, l'un d'entre eux fait un geste vif en direction d'un des migrants haïtiens. Il semble qu'il essaye de le charger ensuite. Sur une autre photo, il la grippe fermement. Dès sa diffusion, la vidéo a essuyé un flot de critiques ce lundi. Et interrogé sur le sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a dû réagir.
Nous venons de voir cette vidéo et c'est horrible à regarder. Toute situation où un individu est traité de façon inhumaine à nos frontières ou ailleurs n'est pas en ligne avec la politique de l'administration Biden.
De leur côté, le directeur de la sécurité américain Alejandro Mayorkas et Raúl Ortiz, le chef des gardes-frontières, qui a longtemps travaillé à Del Rio, ont aussitôt assuré qu'une enquête interne serait mise en place. Des représentants de la diaspora haïtienne ont eux aussi réagi et demandé l'arrêt des expulsions, car disent-ils, le monde désormais regarde les États-Unis. Thomas Arms, Houston, RFI.
Christophe Paget, vous êtes toujours avec nous. Bien sûr, la presse américaine en parle aussi. Hein.
Oui, dans l'Arizona République, Elvia Diaz s'exclame, est-ce vraiment cela les États-Unis et sous un président démocrate qui a promis des méthodes d'immigration plus humaines? Après que son prédécesseur a enfermé des enfants migrants dans des cages et fermé la frontière entre les États-Unis et le Mexique aux demandeurs d'asile. Pour le Washington Post, cet épisode est en fait un concentré des dysfonctionnements de la politique d'immigration de Washington, modifié, dans certains cas pour le pire, par le message incongru de l'administration Biden. Car, rappelle le journal, Joe Biden a accueilli cette année, tout en leur demandant de ne pas franchir la frontière illégalement, des dizaines de milliers de familles d'Amérique centrale avec des enfants. Ce qui a été compris par les Haïtiens et d'autres migrants comme une invitation à tenter leur chance. On peut se demander pourquoi, s'étonne le Washington Post, les migrants haïtiens, virtuellement tous noirs, sont expulsés à une échelle qui n'est pas la même que celle des habitants d'Amérique centrale à la peau plus claire.
Et pour autant, Christophe, le New York Times annonce que le gouvernement Biden compte augmenter le plafond de l'accueil des réfugiés à 125 000 à partir du 1er octobre.
Oui, mais le New York Times précise aussi qu'il y a peu de chances que cette décision concerne les Haïtiens actuellement à la frontière ou les Afghans qui ont fui leur pays après la victoire des talibans. Aucun d'entre eux n'est officiellement considéré comme un réfugié.
Et on reviendra sur ce sujet plus précisément demain avec un nouvel invité. En attendant, ces expulsions et ces images que vous évoquiez, donc Christophe Paget, évidemment. Elles font aussi beaucoup parler en Haïti. Bonjour, Godson Pierre.
Bonjour, Michael.
Rédacteur en chef du site d'information Alter Press, en ligne avec nous de Port-au-Prince. C'est même l'indignation, hein, Godson.
Oui, le père Levelt Michaud, directeur du service jésuite aux migrants, nous a confié qu'il a été choqué par ces images. « J'ai le cœur déchiré », a-t-il dit, exprimant sa révolte et sa frustration face à ce qu'il considère comme un traitement inhumain et dégradant. Pour lui, cette situation rappelle le temps de la traite lorsque les colons pratiquaient la chasse aux Africains pour les capturer, les déporter en Amérique pour être réduits en esclavage. En plus d'un accueil digne, il sollicite un appui psychologique pour les réfugiés sévèrement choqués. D'autres organisations appellent à un moratoire sur les expulsions.
Alors que 6 avions en provenance du sud des États-Unis doivent encore arriver aujourd'hui en Haïti, des retours, Godson, dans un pays qui subit, on le sait bien sûr, de multiples crises.
Pour les milieux de droits humains impliqués dans l'assistance aux migrants, la crise pousse les Haïtiens à quitter massivement le pays, surtout au cours des dernières années, et elle rend difficile la réinsertion des migrants déportés par centaines à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien dans le Nord. Cette crise, crise politique, crise économique, crise humanitaire et surtout crise sécuritaire sans fin, enlève tout espoir d'un avenir différent pour de nombreux Haïtiens et Haïtiennes qui entrent dans la vie professionnelle, c'est ce qu'estime le père Michaud. Toutes les conditions sont réunies pour que les Haïtiens quittent le pays. Les personnes déportées ne cachent pas de leur côté leur grande préoccupation sur la façon dont ils vont vivre ici, en raison notamment du climat d'erreur des gangs qui perdurent à travers le pays, où la violence et l'insécurité n'ont pas cessé de s'accroître.
Et puis aussi après Godson, bien sûr, le séisme du 14 août dernier qui a poussé les autorités à retarder la rentrée scolaire. Néanmoins, un soulagement pour une partie de ces élèves. Ce matin, les activités vont officiellement reprendre, en tout cas pour une partie du pays, mais pas dans le sud.
C'est donc dans les 7 départements qui n'ont pas été directement affectés par le séisme que la rentrée s'effectue officiellement, car de nombreux parents n'ont pas réuni tous les moyens nécessaires pour envoyer leurs enfants à l'école. Rappelons qu'ici, la majeure partie des écoles est privée. Les écoliers attendront le lundi 4 octobre prochain pour reprendre les activités scolaires dans les régions du Sud, où plus de 200 écoles ont été soit détruites, soit endommagées.
Godson Pierre, rédacteur en chef d'Alter Press. Merci, on referme avec vous cette page haïtienne. Il est 9h26 à Fort-de-France.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec la Martinique à la une, bonjour Tiziana Maron.
Bonjour Michael.
Les violences par armes à feu ont sensiblement augmenté sur l'île cette année.
Oui, le confinement et les actuelles mesures de restriction pour les déplacements n'empêchent pas les violences par armes à feu. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, les tentatives d'homicide ont carrément doublé. On fait le point avec Cyriac Sommier de Martinique la première.
Selon les chiffres de la préfecture, 12 personnes ont été tuées depuis le début de cette année 2021 en Martinique. Pour la zone police, c'est déjà un meurtre de plus que l'an dernier. Les tentatives d'homicide sont également beaucoup plus nombreuses, 78 depuis le 1er janvier, contre 72 pour l'ensemble de l'année 2020. Là encore, la hausse est très sensible, alors que nous ne sommes qu'au mois de septembre. Les saisies d'armes à feu augmentent également au Lamantin et à Fort-de-France. 52 armes de poing, pistolets et fusils y ont été saisies sur les 8 premiers mois de 2021. Cela représente une hausse spectaculaire de plus de 44%, alors que 2021 n'est pas terminé.
Et toujours en Martinique, un cluster de Covid-19 au centre pénitentiaire de Ducos. Plus de 20 détenus détectés positifs. Les contaminations seraient dues à des retours de permission ou à de nouvelles arrivées de prisonniers. L'avertissement des syndicats pénitentiaires a été entendu. Un comité exceptionnel d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail doit se tenir cet après-midi sur le site de la prison. Et puis hier, 20 septembre, journée européenne de la prostate, l'occasion de sensibiliser sur le cancer de la prostate qui touche particulièrement la population afro-antillaise. Les études scientifiques le confirment de plus en plus. Cette prévalence de la maladie aux Antilles est liée à la contamination au chlordécone. Les explications de Colette Borda de Guadeloupe la première.
C'est le cancer le plus fréquent au sein de la population masculine dans le département. En Guadeloupe et en Martinique, le taux d'indice en la matière est deux fois plus élevé que dans l'Hexagone. C'est donc un enjeu majeur de santé publique, car cette pathologie aux Antilles est fortement liée à la pollution au chlordécone. En juillet dernier, une nouvelle étude de l'INSERM a réaffirmé le lien entre cette maladie et l'exposition aux pesticides, dont cette molécule utilisée dans les bananeraies entre 1972 et 1993 pour lutter contre les charançons. Interdit depuis, le chlordécone ne reste pas moins présent dans les sols et dans l'eau. Ce cancer, qui frappe les plus de 65 ans, correspond à une prolifération anormale de cellules au niveau de la prostate, qui est une glande située sous la vessie. Aucun symptôme n'est perceptible au début. Au fil du temps, apparaissent des troubles urinaires et de l'érection. Pris à temps, il se guérit dans 90% des cas. Aussi, le dépistage est-il recommandé dès la cinquantaine.
Les explications de Colette Borda de Guadeloupe la première, et c'est la fin de cette édition. Bon après-midi.
Merci beaucoup Tiziana Maron, à vous et aux équipes de la première sur RFI.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
et le journal d'Haïti et des Amériques est à retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast. Celui du jour a été réalisé par Claude Battista. Merci à lui. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition du Rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.